Donc il y a des Bibles, si vous voulez, juste ce côté fenêtre, si ça vous aidera, ça vous aidera certainement. Mais si vous n'avez pas de Bible, vous pouvez toujours la prendre avec vous et la garder. On est content de donner des Bibles gratuitement. Je vais commencer par la prière. Père Céleste, je te remercie pour ta parole vivante et merci que nous pouvons, dans cette période de Noël, penser à la venue de Jésus dans le monde, la meilleure nouvelle de l'histoire, quelque chose d'unique et d'extraordinaire, que Jésus, ton Fils, était parmi nous. Aide-nous à comprendre aujourd'hui le sens de cela et aide-moi à dire ce qui est vrai, fidèle, juste, pertinent. Et parle-nous pour notre encouragement, pour notre foi et pour notre édification. Et aussi atteins ceux qui ne te connaissent pas encore, touche leur cœur et que chacun d'entre nous puissions répondre par la foi obéissante, la foi entière en Jésus. Amen. Gravir le mont Everest est un exploit majeur. Je ne l'ai pas fait. Peu de gens l'ont fait, mais en fait, j'ai l'impression que de plus en plus de gens le font. De plus en plus de gens décident que, voilà, ils vont faire l'escalade et aller jusqu'au bout, monter jusqu'au sommet du mont Everest. Peut-être que vous avez déjà rencontré quelqu'un qui a fait cela. Si c'est le cas, vous avez plus de chance que moi. Probablement, il n'a arrêté de vous parler de ça, de son exploit. Mais quand quelqu'un fait quelque chose comme ça, qui est si extraordinaire et si grand, généralement, on pose quand même la question de ben, pourquoi? Pourquoi est-ce que tu as fait tant d'efforts? Pourquoi est-ce que tu as fait ce grand déplacement pour aller jusque-là? Peut-être pour prouver qu'ils sont forts. Peut-être c'est pour impressionner les autres ou pour dépasser leurs limites. Peut-être que c'est pour avoir une histoire à raconter lors de dîner. Ah, mais moi, en fait, est-ce que je vous ai dit? En 1923, il y avait quelqu'un qui s'appelait George Mallory, qui était un explorateur, quelqu'un qui faisait des exploits. Et en fait, il est mort l'année suivante en faisant l'escalade. On ne sait pas si c'était en montant ou en descendant du mont Everest. Mais on lui a demandé forcément en 1923, mais pourquoi est-ce que tu vas faire ça? Pourquoi est-ce que ça t'intéresse de faire un truc si fou, un si grand exploit? Et il a répondu, pourquoi grimper le mont Everest? Parce qu'il est là. Pour lui, c'était assez de raisons d'y aller et de perdre sa vie. Mais en fait, ça nous montre que pour tout ce que nous faisons, il doit y avoir une raison. Il doit y avoir une raison de faire ce que nous faisons. Et de même, si nous pensons au plus grand exploit qu'il y ait jamais eu, dont je parle aujourd'hui, c'est devenir du ciel sur la terre ce que le Fils de Dieu a fait en la personne de Jésus. Pourquoi le Fils de Dieu a-t-il fait ça? Est-ce que c'était simplement parce que ben, la terre est là? Non. On peut imaginer toutes sortes de raisons pourquoi il serait venu. Peut-être un voyage de découverte, venir voir un petit peu comment ça se passe ici-bas. Savoir ce que c'est de vivre dans notre humanité. D'autres pensent à une visite royale, un peu comme, vous savez, le bain de foule que fait le roi de temps en temps, quand il se mélange un petit peu aux gens. Et voilà, bonjour, le petit peuple. Et puis il remonte dans son palais. Ou être vu et adoré. Bien sûr, le Fils de Dieu mérite d'être vu et adoré. Mais non, ce n'était pas ça la raison. En fait, Jésus nous a expliqué la raison de sa venue en disant que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui est perdu. Il est venu accomplir la volonté de Dieu, son plan qui était mis en place et qui était annoncé depuis longtemps par les prophètes. Mais nous allons entendre ce matin la mission de Jésus. Pourquoi est-il venu sur terre? Pourquoi est-ce que le Fils de l'homme s'est incarné dans un homme qui est né bébé à Bethléem, a grandi en Israël, est allé à la croix? Pourquoi est-ce qu'il a fait tout ça? Et la Bible nous le dit, on va regarder juste un des passages qui nous relate cette mission, et c'est dans le livre d'Hébreux, une lettre qui a été écrite à des chrétiens du premier siècle qui étaient Hébreux d'origine, lettre aux Hébreux, et chapitre 2. Là, il y a 2 semaines, on était dans Hébreux 1, aujourd'hui on sera Hébreux 2, 14 à 18. Puisque Ses enfants ont en commun la condition humaine, lui-même l'a aussi partagée de façon similaire. Ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et libérer tous ceux que la peur de la mort retenait leur vie durant dans l'esclavage. En effet, assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais bien à la descendance d'Abraham. Par conséquent, il devait devenir semblable en tout à ses frères, afin d'être un grand prêtre rempli de compassion et fidèle en service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. En effet, comme il a souffert lui-même lorsqu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. C'est notre lecture, mais cette lecture est pleine de vérité. Et on va prendre le temps pour essayer de décortiquer cela. C'est la dernière semaine à l'Église, ici, c'est la période de l'Avent. On est en train de réfléchir à la venue de Jésus-Christ dans le monde. On avait commencé en constatant que Jésus était Dieu. On avait parlé de sa divinité. Les anges, êtres surnaturels qu'ils sont, ce sont des créatures, adorent le Fils parce qu'il est au-dessus d'eux. On avait parlé de ça. La semaine passée, on a parlé plus de son humanité. Jésus est venu, né d'une femme, né sous la loi, en tant qu'être humain. Et c'est redit ici, dans le verset que l'on vient de lire, verset 14, la condition humaine, c'est-à-dire littéralement la chair et le sang que Jésus avait. Et verset 17, il devait être semblable en tout à ses frères, ça veut dire aux autres êtres humains. Verset 18, il a souffert, ce qui est signe que son humanité était réelle, et il a été tenté comme nous avons été tentés. Jésus est venu dans le monde et n'a pas apparu comme un mirage ou un hologramme, il n'est pas vraiment là. Il était vraiment là, en chair et en os, il était vraiment humain comme nous. Il avait la même condition que nous, il était là en chair et en os. Mais pour faire quoi? Pour quelle raison est-ce qu'il est venu? En fait, ces versets, ce court passage nous dit trois raisons, trois aspects de sa mission. On va commencer par la dernière, parce que c'est la dernière en fait, qui donne le plus de sens au reste, sous-tend les autres. Regardez à nouveau le verset 17 d'abord. Parce que le verset 17 dit, après tout ce qu'il a dit sur le fait que Jésus était semblable aux frères, qu'il était parmi nous, qu'il était homme, le verset 17 dit, dans la suite... Afin d'être, voilà, afin de. Et le afin de, on continue jusqu'à la deuxième partie du verset, s'il vous plaît. On l'a. Toujours verset 17. Faire l'expiation des péchés du peuple. Voilà, voilà, l'expiation des péchés du peuple. Alors, cette phrase-là, en fait, le mot expiation peut être mieux traduit propitiation, on va essayer de comprendre cela, mais c'est la propitiation des péchés. Et c'est notre premier point. Jésus, le libérateur, il enlève nos péchés. Il enlève nos péchés. Le problème dans ce monde peut sembler être plusieurs choses différentes. Et si vous posez la question à différentes personnes, c'est quoi le problème majeur dans le monde aujourd'hui? Vous allez entendre différentes réponses. Certains vont dire, c'est l'inégalité des chances. D'autres vont dire « la pauvreté est un problème ». D'autres encore vont dire « l'ignorance c'est le grand problème ». Si les gens étaient mieux éduqués, ils vivraient mieux. Ou encore d'autres vont dire « l'intolérance est le problème majeur ». Mais selon la Bible, le problème majeur de l'humanité, c'est le problème du péché. Verset 17 parle d'enlever nos péchés, de faire expiation de nos péchés, les péchés du peuple. Le péché, c'est en fait le problème qui nous sépare de Dieu. À cause du péché qui est en nous, qui n'est pas simplement nos actes, mais c'est aussi nos pensées, nos attitudes, notre rébellion contre Dieu, qui s'exprime par notre comportement, ça nous sépare de Dieu. Quelqu'un pourrait dire, ah non, moi, je n'ai pas de problème, là, je ne suis pas un grand pécheur. Je ne pense pas avoir de péché dans ma vie, j'ai fait au contraire beaucoup de bien. Et si j'ai fait quelques petites choses mauvaises, alors le bien que j'ai fait dans ma vie, ça doit compenser pour le mal que j'ai fait. Mais non, en fait, c'est l'équivalent de venir dans mon salon avec vos pieds pleins de boue, vos chaussures pleines de boue, vous promener sur le tapis et mettre de la boue partout, et puis de dire, ah, mais je connais un truc, et de prendre le spray, là, vous savez, le spray qu'on... pour faire que ça, l'odeur disparaisse. Ben, c'est très gentil, tout ça, mais le problème, il est là, sur le tapis. Vous avez masqué le problème, peut-être par la belle odeur, le beau parfum, mais vous n'avez pas enlevé le problème. Et pareillement, lorsque nous essayons de bien nous présenter avec nos bonnes œuvres, le problème de notre faute, nos fautes devant Dieu, demeure. Il faut quelqu'un qui enlève le problème. Et nous ne pouvons pas penser que sacrifier un mouton ou faire une offrande va faire suffisamment pour enlever nos péchés. Un grand prêtre, et c'est de ça qu'il parle ici, un grand prêtre à l'époque du temple offrait des sacrifices comme signe du pardon de Dieu. Dieu était prêt à nous pardonner. Mais le nouveau grand prêtre que Jésus représente offre un nouveau sacrifice qui est meilleur que ce qui a précédé. Nous avons besoin de lui, parce que nous avons besoin de quelqu'un qui enlève nos péchés. Et Dieu n'est pas prêt à simplement les ignorer et dire, bon, ben, c'est pas grave. Ce ne serait pas juste. Un paiement doit être effectué. Et l'expression propitiation, qui est le sens là, de cette phrase, signifie en fait qu'un sacrifice est donné qui paye pour la condamnation de nos fautes, parce que la condamnation tombe sur lui, comme sur le bouc émissaire à l'époque. Jésus a fait ce sacrifice, et il l'a fait de son plein gré. Il n'a pas été une victime involontaire. Je vais regarder avec vous juste quelques versets au chapitre 10, parce que c'est un résumé très bref et très clair. Hébreux 10, versets 11 à 14. Je vais juste le lire. Tout prêtre se tient chaque jour debout pour faire le service et offrir fréquemment les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais enlever les péchés. Tandis que Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient réduits à lui servir de marche-pied. En effet, par une seule offrande, il a conduit à la perfection pour toujours ceux qu'il rend saints. Voilà ce qu'il a fait. Un seul sacrifice. Sacrifice unique. Mais c'est pour que tous nos péchés puissent être enlevés, que nous puissions être parfaits aux yeux de Dieu. Il n'y a plus rien à payer. C'est un paiement légal qui est en place. Et aucune action supplémentaire n'est prise contre le coupable. C'est un peu comme lorsque vous avez une amende et que vous devez payer, je ne sais pas, une amende parce que vous avez été trop vite sur la route, ça m'arrive. Vous payez l'amende, et une fois que vous avez payé la totalité de l'amende, il n'y a plus rien à payer. Quelqu'un d'autre peut dire, est-ce que je peux t'aider, ou est-ce que tu dois faire des économies? Non, c'est payé, c'est bon, c'est réglé. Si Jésus paye pour moi, alors le problème majeur de ma vie est réglé. Et c'est ça, en fait, qui va nous aider avec toute la suite, mais c'est vraiment l'élément fondamental, l'élément premier, c'est qu'il paye pour nous. Mais ce n'est pas pour chaque être humain. Verset 16, il dit, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide. Et ça, ce n'est pas dans le sens qu'on l'utilise généralement. Les gens disent, je ne suis pas un ange. Ouais, mon voisin, c'est vraiment pas un ange. Ce n'est pas ça. Quand il dit, ce n'est pas à des anges, il vient de parler des êtres surnaturels qui sont des anges. D'accord, au service de Dieu, Jésus n'a pas payé pour eux, mais il a payé pour les descendants d'Abraham, il dit. Et là, il parle des humains, on n'a pas des êtres surnaturels, mais c'est étrange, parce qu'on aurait pensé qu'il dirait à des descendants de qui? D'Adam. Des hommes. Or, il dit à des descendants d'Abraham. Pourquoi? Parce qu'Abraham était connu principalement pour sa foi en Dieu. Abraham est le grand exemple, l'exemple par excellence de la foi, la confiance en Dieu. Et donc, si c'est pour les descendants d'Abraham seulement, ce n'est pas descendance des gens juifs, mais c'est tous ceux qui ont la foi, comme Abraham a eu la foi, que Jésus vient secourir. Et c'est seulement pour eux. C'est seulement pour nous. Tu fais partie du peuple pour qui Jésus a fait l'expiation si tu as la foi comme Abraham a eu la foi. Alors est-ce que tu es pardonné? Est-ce que Jésus a enlevé tes péchés? Ça dépend de la relation que tu as avec Jésus. Ce n'est pas une question de quelle église tu fréquentes, ou de combien de fois tu lis la Bible par semaine. C'est comment tu considères Jésus. Certains vont dire, c'est un professeur très sage, mais il est plus que ça. Ou ils pensent que Jésus est une bonne influence sur leur vie, il donne un bon cadre moral pour la vie. Mais c'est bien plus que ça. Jésus est celui qui vient pour la propitiation. Et il faut qu'on compte sur lui pour être proche de Dieu, ramené à Dieu, pour enlever nos péchés. Et c'est vraiment très personnel. Je ne peux pas croire à votre place. Ma relation avec Dieu ne peut pas compter pour vous. C'est vous-même qui devez avoir la relation avec Dieu. C'est une question de votre propre réaction face à la bonne nouvelle que vous avez entendue. Et c'est beaucoup plus personnel que signer un contrat ou ouvrir un compte en banque. Il y a quelques mois, il y avait une publicité qu'on voyait un peu partout qui disait qu'avec une certaine banque, vous pouvez changer votre « oui, mais bon » en « oui ». Alors c'est attirant parce qu'on veut changer nos « oui, mais bon » en « oui ». Je leur ai demandé, j'ai complété le formulaire en ligne pour ouvrir un compte chez eux. Je me suis dit que ce serait intéressant d'avoir un compte en plus, surtout si ça me permet de dire oui comme ça, à toutes les dépenses. Et je leur ai demandé et ils ont regardé mon dossier et ils m'ont refusé. Ils m'ont dit non. Du coup, je leur ai écrit quand même une petite réponse. Mais est-ce que vous pourrez changer votre oui mais bon en oui? Mais ils ne l'ont pas fait. Mais en fait, ça montre que j'aurais pu ouvrir un compte avec beaucoup de facilité, simplement en complétant un formulaire, sans rencontrer mon banquier ou responsable de la banque. C'est très impersonnel, n'est-ce pas? Mais c'est très facile. Tandis que Jésus paye pour ceux qui ont une relation personnelle avec lui. Ce n'est pas simplement scanner un code QR et dire voilà, je veux suivre Jésus. C'est une relation personnelle par la prière. Si nous avons la foi, nous nous appuyons sur lui et nous disons Jésus, il faut que tu me sauves parce que sinon je ne vais pas y arriver tout seul. Il paye, il enlève nos péchés et tout le reste découle de ça. Mais il est venu pour ça. Dieu le Fils a pris la nature humaine pour faire ça, pour enlever nos péchés. Et ça, c'est la raison de sa venue. Et ça débloque la partie suivante. Deuxièmement, il détruit le diable. On remonte au verset 14 et là, on voit que Jésus détruit celui qui détient le pouvoir de la mort. Verset 14. Ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Ne vous trompez pas en entendant cela. Le diable est toujours vivant, il n'a pas été anéanti. Nous croyons que le diable est une vraie personne, un ange déchu, un ange rebelle contre Dieu, un être surnaturel donc qui vit pendant beaucoup plus longtemps qu'un autre être. Mais il est encore adoré par certains, par les satanistes. Il est encore suivi par beaucoup de gens. C'est étrange, mais la Bible relate que beaucoup de gens, sans le savoir, font la volonté du diable. Ce n'est pas que les satanistes. J'étais frappé hier en regardant, j'étais dans un magasin de musique à City 2, combien d'images sur les albums, sur les t-shirts, sur les affiches, etc. des groupes de musique font référence de manière pas très subtile au diable. Beaucoup de gens, sans le savoir, sont en train de faire ce que le diable veut, c'est-à-dire rejeter Christ, rejeter Dieu et vivre de manière égoïste. D'ailleurs, le diable embête toujours les chrétiens. Il essaie de causer des divisions dans l'Église, il essaie de tenter les chrétiens et il essaie de persécuter les chrétiens. Le diable n'a pas disparu. Donc quand je dis que Jésus a détruit le diable, c'est qu'il a détruit une certaine partie de l'œuvre du diable. On doit dire aussi que Dieu a le pouvoir ultime sur la mort. Ce n'est pas le diable qui décide qui meurt ou pas. Celui qui a le pouvoir sur la mort, comme il est dit ici au verset 14, ne signifie pas que c'est le diable qui décide tout. Mais qu'est-ce que ça signifie alors ? Ce que le diable fait, en fait, c'est qu'il impose la peine de mort à ceux qui sont coupables. Et ça, c'est la loi de Dieu. Il a dit, dès le commencement, « Si tu pèches contre moi, tu mourras. » Et le diable met cette loi en opération par la mort. Dès qu'un criminel est jugé coupable, qu'est-ce qui se passe ? Le juge annonce sa peine et l'employé des prisons l'amène à la prison et l'enferme dans une cellule. C'est l'application de la peine. C'est pas la prison qui décide, c'est le juge qui décide. Et donc c'est comme ça que ça se passe. Alors Jésus a payé pour le péché, et du coup, ben tout le mécanisme a été détruit. Il n'y a plus rien que le diable peut faire contre ceux qui sont libres de leur péché. Le diable ne peut pas appliquer la mort aux pécheurs parce que nous ne sommes plus coupables. Nous ne sommes plus condamnés si nous sommes en Jésus-Christ. Il n'y a plus de peine à purger s'il nous a enlevé nos péchés. Nous sommes réellement libres. Et nous avons compris ça et nous sommes rassurés par cela. Quelle vérité rassurante que Jésus a défait l'œuvre du diable. Alors il y a une question de timing. Tout comme ceux par le passé qui devaient attendre longtemps pour la venue du Messie, nous devons attendre longtemps pour voir la fin avec la venue finale de Jésus et la destruction de la mort. C'est à ce moment-là que le dernier ennemi, la mort, sera anéanti et le diable sera mis enfin hors d'état de nuire. Mais nous devons attendre que la mort disparaisse. Aujourd'hui, pourtant, nous savons que le pouvoir de la mort, du péché, est brisé. Que Dieu soit remercié pour ça. 1 Corinthiens 15, qui parle de la résurrection, dit cette phrase à la fin, que Dieu soit remercié, lui qui nous donne la victoire à travers Jésus-Christ. Les choses ne sont plus comme avant. Le chrétien, maintenant, attend sa libération, mais avec confiance. Et c'est ça le message de Noël, que ce bébé qui est né à Bethléem était cet homme qui allait venir, qui allait grandir et qui porterait notre péché et qui nous libérerait du diable et de sa puissance. Du coup, chrétien, nous ne devons plus avoir une grande peur du diable. Les gens sont souvent plus conscients des ténèbres que de la lumière. Les gens ont peur de qu'est-ce que le diable va nous faire? Parfois, quand on s'engage devant Dieu dans l'évangélisation ou dans des grands efforts, on a peur de ce qui pourrait nous arriver. Mais on ne doit pas penser comme ça. Même si le diable est impressionnant, Dieu est au-dessus du diable et Dieu est avec nous. Et personne n'est aussi puissant que notre Dieu. Il y avait dans les foires auparavant, ceux qui visitaient les foires, vous vous souvenez peut-être de ça, des maisons. Qui était un petit manège dans lequel on entrait d'un côté, on se promenait un peu dans la maison, puis on sortait de l'autre côté, et c'était des maisons de la peur. Et c'était pour donner une frousse aux gens. On se promenait à l'intérieur, on entendait des choses, on voyait des choses. C'était pour voir si les gens allaient réagir en hurlant, en vraiment une frousse bleue. Et tout était fait pour vous faire peur. Pourtant, on ne subissait rien. Il n'y avait pas vraiment quelqu'un qui était en train de nous attaquer avec une hache ou quelque chose comme ça. Il n'y avait vraiment rien de mal qui se passait, mais c'était pour nous faire peur. Et c'est en fait un peu comme ça avec le diable. Beaucoup de bruit, il fait peur, il est impressionnant, mais il ne peut pas nous attraper. Donc nous ne devons pas avoir une peur excessive par rapport au diable et ce qu'il va nous faire. En même temps, nous ne devons pas non plus entrer dans un triomphalisme excessif. Le triomphalisme qui met tellement l'accent sur la victoire qu'on dit, ouais, il n'y a plus rien à craindre, tout est gagné et tout va bien. Non, le diable sait que son temps est compté. Son désir est de saper l'œuvre de Dieu sur la terre. Et il veut tenter des gens. Nous voyons des gens qui se détournent de la foi encore aujourd'hui. Et ça fait peur parce qu'ils croient à des mensonges, ils tombent dans le piège du diable, dit la Bible. Tout n'est pas gagné. Et donc, nous avons à croire que oui, l'œuvre du diable pour amener les gens à la mort est défaite. Dieu a défait cela, mais nous avons besoin de quelqu'un qui nous garde et qui a vaincu la mort pour nous. Et il faut compter sur lui. Et la suite concerne la peur, troisième aspect de la mission de Jésus. Jésus est venu pour enlever nos péchés, il est venu pour détruire l'œuvre du diable, mais il est aussi venu pour nous libérer de la peur. Verset 15 parle de ça. Qu'est-ce qu'il dit au verset 15? Il est venu libérer tous ceux que la peur de la mort retenait leur vie durant dans l'esclavage. On aurait pensé qu'il disait libérer de la mort. Mais en fait, il dit libéré de la peur de la mort. Parce que ici, ça parle de notre peur au point où la peur est devenue un esclavage. On est devenu esclave de la peur avant Christ. Et c'est vrai qu'on peut avoir peur de beaucoup de choses différentes, n'est-ce pas? Ça nous parle, ce verset, parce que ça évoque en nous toutes sortes d'autres choses que nous craignons de jour en jour. Peur d'être seul, peur de manquer de l'argent, peur que notre santé décline, la peur de mourir est un facteur important. Peut-être qu'elle pourrait se regrouper dans une sorte de méga-peur. Si vous perdez vos proches, vous n'aurez pas d'argent, vous allez tomber malade et vous allez mourir. Alors ici, à LifePoint, vous pourriez voir les autres et penser que personne d'autre n'a des soucis ou des craintes ou des peurs comme vous, parce que le cadre est beau et parce que on est bien habillé, on fait attention à notre présentation. Mais même si la présentation est soignée, nous ne voulons pas nous cacher. Nous ne voulons pas avoir une fausse apparence. Je vous invite même à parler les uns avec les autres et à découvrir, en fait, vous allez comprendre que tout le monde, en fait, nous faisons face à des difficultés. Il n'y a personne qui n'a pas un problème relationnel ou un deuil ou une histoire compliquée, des choses à gérer, des questions par rapport à l'avenir. Mais on doit vivre avec les cicatrices de notre passé et des besoins dans le présent. Je me souviens d'une conférence chrétienne qui était intitulée « Le futur composé de notre passé imparfait ». Ça fait un truc de ouf pour la conjugaison. Hein. Mais c'est vrai, c'est la réalité. Le futur composé de notre passé imparfait. Comment est-ce qu'on va vivre à l'avenir? Comment est-ce qu'on va vivre avec ce qui vient de me passer là? Ben, je dois prendre les pièces du puzzle de ma vie et en faire quelque chose. Mais peut-être que j'ai des doutes par rapport à l'avenir. Peut-être que j'ai des craintes par rapport à l'avenir. Ce que je veux dire, et je peux comprendre que nous ayons tous des craintes. Cependant, on ne peut pas rester dans la peur. En tant que chrétien, on est interpellé parce qu'on est censé être différent par rapport à la peur. La Bible nous appelle à ne pas demeurer dans la crainte, même si la crainte serait naturelle. Si vous regardez, il y a plein de versets qui parlent de ça, mais dans 1 Pierre chapitre 3, il y a un appel aux femmes qui sont appelées à faire le bien sans vous laisser troubler par aucune crainte. C'est un fameux défi. Elle parle aussi aux autres dans 1 Pierre, face à des gens qui veulent nous faire souffrir à cause de notre foi, et il dit « N'ayez d'eux, les persécuteurs, aucune crainte et ne soyez pas troublés. » Mais quelqu'un pourrait dire « Ouais, mais attends, moi j'ai de la crainte. Moi je suis troublé. » Et justement, ces versets ne parlent pas simplement à des gens qui ont eu la chance de rien avoir de mal dans leur vie, de ne connaître aucune difficulté, de ne pas être menacé ou troublé. Il parle justement à ces situations-là pour leur dire, pour nous dire, de lutter activement contre la crainte. Et pour ça, il faut avoir les idées bien en place. On ne va pas pouvoir s'en sortir avec nos craintes à moins de savoir aussi compter sur Dieu, que Dieu est souverain sur notre vie, que Dieu est là, que Dieu est toujours en train de gérer notre vie et que tout ce qui arrive est permis par sa bonne volonté. Et que quoi qu'il m'arrive, il me gardera et il assure que je serai avec lui pour toujours. Il va me bénir par des moyens que je ne peux pas encore imaginer, parfois par des difficultés, parfois par des épreuves, mais il va me bénir, il veut notre bien et il va agir pour notre bien. Et ça, je dois y croire. Donc, nous avons des peurs, mais le Seigneur peut nous aider à vaincre nos peurs. Jésus peut nous secourir quand nous sommes tentés, dit le verset 18. Et s'il peut nous secourir quand nous sommes tentés, ça vaut aussi pour la tentation à la crainte. Où on peut dire, Seigneur, là, face aux circonstances, face aux problèmes, face aux épreuves, là, je suis tenté à avoir vraiment peur. Là. Aide-moi, viens à mon secours. Maintenant parlons de la peur de la mort, parce que c'est de ça qu'il parle particulièrement au verset 15, « Libérez ceux qui ont la peur de la mort ». Dans le monde, c'est une grande peur, un facteur important que nous ne devons pas oublier. Nous ne devons pas sous-estimer que beaucoup de gens autour de nous ont peur de mourir. Woody Allen a écrit: Je n'ai pas peur de la mort, mais je n'ai pas envie d'être là quand ça arrive. Nous, par contre, nous ne devons pas avoir peur de mourir. Nous partirons ce jour-là pour aller dans la présence de Dieu immédiatement. Et nous pouvons être un contre-exemple à notre société parce que nous n'avons pas peur. Pensons à cela dans l'évangélisation. Beaucoup de gens autour de nous qui ont peur vont dire peut-être qu'ils sont spirituels parce qu'ils veulent se raccrocher à quelque chose, ils veulent avoir un certain espoir en disant, ben voilà, si j'ai fait assez, si j'ai prié un petit peu, si j'ai écouté de la musique spirituelle ou un message spirituel, peut-être que Dieu fera en sorte que ça va, que je m'en sors quand je meurs. Les gens évitent de parler de la mort parce qu'ils ont peur, qu'ils ne sont pas prêts. Un évangéliste fait appel à cette peur, il dit « Vous avez peur de mourir ?» Et les gens disent « Un peu. » Et puis il dit « Un peu ? J'aurais très peur de mourir. » Faire face à la mort, c'est faire face à être coupé de la vie, être condamné par Dieu. Vous n'avez pas peur de ça ? Nous devons parler à ceux qui sont sous l'esclavage de la peur de la mort pour leur faire reconnaître qu'ils sont là-dessous et leur dire qu'ils peuvent en sortir parce qu'il y a un moyen pour s'en sortir. Il s'agit de comprendre ce qui s'est passé à la croix. Nous n'avons rien à craindre dans la mort parce que Jésus a ouvert la porte au Père. Et nous savons qu'il a payé le prix de nos péchés, et donc il n'y a aucune punition devant nous, on n'a pas à avoir peur. Mais le chrétien aussi, nous devons penser à cela pour nous-mêmes. Oui, c'est vrai que nous sommes sortis de cette crainte de la mort. Maintenant, nous pouvons vraiment être pleinement rassurés. Je vais terminer par une lecture en Jean chapitre 5, juste une phrase. Jean chapitre 5, verset 24, où Jésus parle. Et il dit ceci. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Nous allons mourir, à moins que Jésus ne revienne avant. Nous allons mourir. Mais en fait, ça ne nous fera pas de mal. On n'arrêtera pas d'exister. Le jour où la mort arrive, on passe à travers et on entre dans la présence de Dieu. Donc est-ce que j'ai peur de mourir ? Non. Attention, ne pas avoir peur de mourir n'est pas la même chose que renoncer à vivre. Dieu nous appelle à vivre. Il nous donne une vie ici à vivre avec des responsabilités, avec des choses à apprendre dans la vie présente et on doit saisir cela. Mais on doit vivre pour Dieu sans avoir crainte, la crainte du lendemain, la crainte d'après la mort, etc. Donc nous avons compris aujourd'hui que nous pouvons être libres. Libres parce que nous avons été libérés par le libérateur qui est venu dans le monde pour cet objectif-là, pour cette mission-là. Libres de la peur de la mort, libres aussi des autres peurs que nous pouvons avoir. À plus forte raison, parce que la peur majeure est la peur de la mort, n'est-ce pas ? Et donc si nous avons mis notre confiance en Christ, nous ne sommes plus face à l'éternité loin de Dieu. Nous avons été libérés de la peur, du diable, de la mort et la peine du péché qui pesait sur nous. Alors comment vivre cela dans cette période de Noël ? Tout d'abord, je vous appelle à la reconnaissance, à la célébration. Reconnaissance et réjouissance pour le chrétien parce que nous savons, merci Seigneur, ce moment-là était le moment où le plan était en train de se mettre en place. Il est né à Bethléem, mais c'était parce qu'il voulait nous racheter de la mort éternelle. Quelle grâce, quel plaisir, quelle joie. Mais c'est aussi un moment de sobre réflexion. Regardez la condition de l'humanité sans Dieu. Tout n'a pas changé, bien entendu. Tant que les gens se détournent de Dieu, tant que le monde est hostile à Dieu, le monde a un problème. Le péché, les ténèbres demeurent. Et donc un moment de sobre réflexion nous permet de considérer l'enjeu de rejeter Dieu. Vous savez que les mois et les années peuvent défiler à très grande vitesse. À un moment, on est un bébé qui pleure, après on est un vieillard qui pleure. De temps en temps, nous sommes rappelés de notre mortalité, peut-être à un enterrement, peut-être simplement parce que nous vieillissons et on est un peu moins en forme qu'avant. Mais il est donné à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, dit le Seigneur. Sommes-nous prêts ? Sommes-nous confiants ? Cherchons refuge auprès du Seigneur qui veut devenir notre libérateur. Je vais prier ensemble. Père Céleste, nous sommes conscients que tu nous parles et que tu nous interpelles. Parfois, c'est vrai que dans le courant de la vie, nous laissons emporter, engloutir par la peur. Mais nous avons compris aujourd'hui que nous n'avons plus à avoir peur, parce que tu es celui qui est venu agir à travers ton Fils pour nous secourir. Merci que Jésus est mort et ressuscité pour payer pour nos fautes. Merci qu'il nous enlève ce grand problème de notre péché. Oh Seigneur, donne-nous à chacun de vivre cela avec joie, mais aussi avec cette sobre réflexion. Où en sommes-nous devant toi? Est-ce que nous avons mis notre confiance en toi? Est-ce que nous avons cette relation personnelle avec toi? Seigneur, travaille nos cœurs et permets que nous puissions compter sur toi, appeler à ta bonne volonté pour nous sauver, pour nous secourir encore aujourd'hui. Et si nous avons des problèmes au quotidien, permets que nous puissions nous encourager les uns les autres, prier les uns pour les autres, être conscients que nous ne sommes pas seuls face à nos problèmes, mais que tu nous as mis dans une famille chrétienne pour nous encourager, pour nous aider et pour nous réconforter. Et tout cela, nous te prions au nom de Jésus. Amen. Maintenant, nous